France Culture.
Pêche interdite, est-ce la solution pour sauver les dauphins ? Depuis près d'une dizaine d'années, des épisodes importants d'échouage de petits cétacés et de dauphins communs ont été relevés sur le littoral atlantique, ce qui a entraîné des mesures de protection spécifiques et le travail de chercheurs et de collectifs pour comprendre les phénomènes et agir en conséquence. Pour la deuxième année consécutive, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne pendant un mois, du 22 janvier au 20 février, pour les navires de plus de 8 mètres. Alors, quels résultats pour les cétacés ? Quelles conséquences pour la filière pêche? Comment œuvrer de concert et en harmonie pour et avec le vivant? Voici quelques questions auxquelles vont répondre nos trois invités. Avec nous, Hélène Pelletier, bonsoir. Vous êtes ingénieure de recherche à La Rochelle Université CNRS, déléguée au groupe d'experts sur les captures d'espèces protégées à l'Observatoire Pélagis de La Rochelle. Fabienne Delfour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éthologue et cétologue, spécialiste du comportement et de la cognition des animaux. Actuellement enseignante-chercheuse à l'ENV, c'est l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Et vous êtes chercheuse associée à l'ELCB, l'Institut Communication, Langage et Cerveau. Et je précise que vous êtes auteur du livre « Dans la peau d'un dauphin », un livre paru chez Flammarion. Et puis Kitri Sourget, également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur à Lyotte, chargé de mission au sein de l'Organisation des pêcheurs de Bretagne. Bienvenue à vous trois et bienvenue aussi à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission toujours préparée par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, celle de Vanessa Chang, des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Anthony Thomasson.
77 dauphins gisant sur notre littoral ce week-end et déjà 300 depuis le début de l'année sur la côte atlantique.
À ce moment-là de l'année, on a déjà dépassé en fait les chiffres de l'année dernière. Après, ça veut peut-être rien dire. Peut-être qu'au mois de février, au mois de mars, on en aura moins que l'année dernière, quoi. Et sur la totalité de l'année, de toute façon, ça fait 2-3 ans qu'on est sur à peu près un millier d'échouages.
Et dans la quasi-totalité des cas, pas besoin de grandes investigations pour trouver les causes de la mort.
C'est une capture accidentelle dans un engin de pêche. La nageoire caudale a été sectionnée, quoi, en fait, coupée. Et ça, c'est lié aux opérations de démaillage. C'est-à-dire que pour sortir les animaux en fait du filet sur les probablement les filigueurs, là, à ce moment-là. Soit ils coupent la nageoire caudale parce qu'elle s'est vraiment très très emmêlée dans le filet, soit ils la coupent parce qu'en fait, ils ont sorti l'animal avec un bout et ensuite ils coupent la caudale, quoi.
Encore et toujours les mêmes causes pour les mêmes conséquences, les centaines de bateaux de pêche dans le golfe de Gascogne, filayeurs ou pélagiques. Pourtant, quelques efforts sont faits depuis 2 ans. Répulsifs acoustiques, caméras embarquées, présence d'observateurs sur les bateaux. Mais voilà, à terre, les mêmes images d'une année sur l'autre.
Ce qu'on voit surtout, c'est une très très forte augmentation, une continuité de l'augmentation de la capture. Et c'était déjà très inquiétant, donc on ne peut pas dire plus que ça continue à être très inquiétant.
Reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 2 février 2021. Et oui, ces échouages, ces captures, des situations vécues ces dernières années et qui ont suscité des réactions, engendré des décisions, comme celle d'interdire la pêche dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février en 2024 déjà, et puis ce principe reconduit pour 2025 et 2026. Alors peut-être, première question, Hélène Pelletier, en quoi ces échouages questionne et montre une situation anormale et nous dit que finalement il fallait visiblement prendre des décisions et agir.
Alors, je pense que déjà, faut rappeler que les échouages, ce sont des événements qui se produisent pour différentes causes.
Oui.
Peut y avoir, de son, des causes naturelles. Il y a aussi des animaux qui meurent de leur belle mort, de vieillesse, de maladie, etc. Donc, c'est pas parce qu'il y a des échouages qu'il y a forcément des captures. Mais nous, dans notre cas, notamment en hiver, on a un nombre de petits cétacés et surtout des dauphins communs, des nombres très importants d'animaux qui présentent des traces de mort dans les engins de pêche. Et à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Et c'est vrai que quand on fait des estimations de captures qui surviennent en mer, donc avec deux dispositifs, soit par des échouages que l'on va corriger par un certain nombre de paramètres, soit par les observateurs qui sont embarqués sur les bateaux de pêche. Dans les deux cas, on a des estimations de capture qui sont élevées, et plus élevées que les seuils qui sont établis par différents groupes de scientifiques à l'échelle européenne.
Alors, quand vous dites élevé, parce qu'on relève ces chiffres, hein, environ 9 000 à 10 000 par an sur le littoral atlantique avant l'interdiction, c'est ça? On était à ce niveau-là?
Oui, c'est ça. Depuis 2016, on a à peu près entre 5 et 10 000 par année, dauphins communs.
Donc, ce qui mettait en péril les espèces? Et alors, de quelle espèce parle-t-on?
Donc, on parle surtout du dauphin commun, qui est l'espèce la plus abondante aujourd'hui dans le golfe de Gascogne. Donc, c'est un petit dauphin qui vit en grand groupe, qui fait à peu près 2 mètres de long. On le reconnaît bien parce qu'il a un sablier, une tache en fait, en forme de sablier sur le flanc, de sablier jaune. Donc, c'est vraiment un animal qu'on voit de plus en plus près des côtes de ces dernières années. Ces mortalités, elles sont trop élevées par rapport aux seuils qui sont estimés, qui intègrent la taille de la population et également la démographie, donc c'est-à-dire les paramètres biologiques, à quelle vitesse il se reproduit, etc. Et on est au-delà des seuils qui sont admis au niveau européen.
Et ces seuils, ils sont de quel ordre?
Alors, selon les groupes d'experts et les objectifs, c'est toujours un petit peu des fois des batailles d'experts, peut avoir des seuils un peu différents. Celui aujourd'hui qui fait consensus, il est à peu près 1 000 000 de captures de dauphins communs par an pour l'ensemble des eaux européennes, donc depuis Gibraltar jusqu'aux eaux norvégiennes.
D'accord. Alors, il faut préciser qu'avant l'interdiction, les échouages montraient sur 70 à 80% des dauphins morts des traces de capture. Il faut aussi préciser que d'autres dauphins morts peuvent ne pas s'échouer, c'est-à-dire peuvent mourir en mer, couler et donc ne pas être comptabilisé. Voilà, pour être très précis, il faut avoir ces chiffres en tête. Fabienne Delfour, ces mammifères sociaux, hein, vous les connaissez bien puisque vous êtes vraiment experte des dauphins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, peut-être nous dire en quoi cette situation est effectivement inquiétante au regard de l'état des espèces concrètement? Voilà, ils sont non seulement victimes d'ailleurs de la pêche, mais aussi d'un surtourisme, hein, les dauphins, ils subissent.
Oui, tout à fait. Et peut-être, comme le précisait Hélène, il y a la population, je pense qu'elle est estimée à peu près à 200 000 individus. Donc, ça voudrait dire que ces animaux, il y a à peu près 1 à 5% de cette population qui décède dû à ces captures accidentelles. Après, il faut savoir que ce sont des animaux sociaux, donc des animaux aussi qui vivent longtemps. La durée de vie, c'est de 25 à 40 ans. Donc, entre 25 et 40 ans de longévité, on a le temps d'apprendre des choses. Et ils apprennent aussi des nouvelles manières de pêcher, et notamment dans les filets, ce qui les rend vulnérables d'autant plus. Ce sont des animaux qui vivent dans des proximités sociales très très fortes. Donc les jeunes individus, en observant les adultes, vont reproduire les mêmes comportements. Oui. Donc on voit bien à quel point un nouveau comportement peut s'étendre dans une communauté de dauphins. Et c'est ça aussi qui est préjudiciable, puisque voilà, une fois que l'animal a appris sa technique de pêche, ça, il va la reproduire et ça va durer longtemps pour lui et pour ses descendants.
Alors ils ont appris à se nourrir en suivant les bateaux. Pourquoi? À cause de la raréfaction des poissons?
Oui, il faut bien comprendre que ce sont des animaux qui vivent dans un milieu qui est de plus en plus pollué, fragile, où il y a une raréfaction des ressources alimentaires. Et puis ce sont des animaux qui sont curieux, qui explorent, qui créent, qui ont des capacités cognitives assez développées. Donc, ils vont mettre en pratique de nouvelles techniques d'exploration et de pêche. Et ça fait partie de ces nouvelles techniques de pêche qu'ils ont pu mettre en place, de pêcher directement, se servir dans un filet. C'est comme s'il y avait un buffet à volonté qui était présent. Donc c'est tentant.
Kitry Sourgé, alors de votre côté, vous êtes dans cette relation aussi de proximité avec le secteur pêche, un secteur pêche qui avait dû peut-être voir ses échouages augmenter au fil des années. Voilà, dites-nous peut-être avant la décision d'interdiction, quelle était la réaction. Il faut peut-être préciser aussi d'ailleurs que depuis 1972, un réseau national d'échouage existe, hein, avec des correspondants locaux, associations, bénévoles, organismes d'État, collectivités, un réseau vraiment coordonné par Pélagis, mais qui signale et qui travaille sur ces échouages et qui peuvent interpeller dès qu'il y a une situation peut-être alarmante.
Oui. Bah, du côté de la profession, depuis 2004, les pêcheurs travaillent sur des projets et des études pour mieux comprendre les interactions entre les mammifères marins et les engins pêche de Gascogne. Et réalisé à partir de 2017 suite aux échouages plus importants qui ont été constatés et aux interactions plus importantes avec les engins de pêche. Mmh. Juste pour préciser, c'est que c'est sur les résultats de campagnes aériennes de survol aérien pour définir les populations de dauphins communs à l'échelle de l'Atlantique nord-ouest. Ces résultats montrent que les dauphins, enfin que la population de dauphins qui n'a pas évolué dans les 20 dernières années, s'est par contre rapproché des côtes et donc du coup s'est retrouvé en fait sur les zones où travaillent les pêcheurs depuis des dizaines d'années, et du coup ce qui a favorisé les interactions avec les engins de pêche et aussi les échouages à la côte.
D'accord. En tout cas, on comprend que toute cette situation a évolué, à la fois la façon de se nourrir, hein, côté dauphin, peut-être que des évolutions aussi en matière de pêche ou autre. On va essayer de comprendre tout cela, mais surtout de donner à comprendre pourquoi on en arrive à ces interdictions, hein, qui questionnent certains et qui du coup nécessitent de voir comment chacun peut jouer sa partition pour améliorer la situation. À l'origine, en 2019, un groupe international de 26 ONG, dont France Nature Environnement, Sea Shepherd et la LPO, a demandé à la Commission européenne des mesures d'urgence pour réduire les captures de dauphins envers la France et d'autres pays. À partir de là, Hélène Pelletier, peut-être que vous pouvez nous faire un rapide historique de la suite, c'est-à-dire les mesures prises du côté de la Commission européenne et puis ensuite bien les décisions du Conseil d'État en France.
Oui, alors du coup, suite à cette plainte des ONG, la Commission européenne a demandé au groupe d'experts du Conseil international pour l'exploration de la mer, donc le CIEM, de donner son avis. Les ONG, en fait, demandaient 4 mois de fermeture de pêche dans une grande partie de l'Atlantique Nord-Est. Et donc, ce groupe d'experts s'est rassemblé et s'est interrogé sur l'intérêt ou pas et l'efficacité de fermer la pêche pendant 4 mois, et également de s'interroger sur d'autres mesures qui pourraient être appliquées pour remplacer éventuellement ces fermetures. Le constat était qu'à l'époque, il y avait quand même, et c'est encore un petit peu le cas maintenant, il y avait quand même pas énormément de connaissances sur les circonstances exactes des captures. Et du coup, on a une vision encore un petit peu globale du phénomène, on a des estimations, etc. Mais on a encore du mal à savoir précisément quels sont les types d'engins et les circonstances spécifiques des captures. Mmh. Du coup, il a été suggéré que 4 mois, c'était vraisemblable. Surtout la façon dont c'était positionné dans le temps n'était probablement pas idéale. Et donc le CIEM a proposé différents scénarios de fermeture avec différents objectifs, en disant tel scénario répondra à tel objectif, etc. Ça en est suivi après toute une longue série d'échanges entre la France et la Commission européenne, avec notamment une procédure d'infraction, une mise en demeure, etc. Tout un tas d'arsenal législatif de la Commission européenne, et avec finalement, suite à la saisie du Conseil d'État par différentes ONG, la réponse du Conseil d'État a été de dire à l'État français qu'il devait prendre des mesures plus importantes pour réduire les captures de dauphins, puisque finalement ces captures n'avaient pas été réduites depuis la plainte des ONG en 2019 à la Commission européenne. Et je vous passe encore le détail d'un certain nombre d'allers-retours entre les ONG et le Conseil d'État. Oui. Mais voilà, suite à des arrêtés avec de nombreuses dérogations, les dérogations ont été annulées à nouveau par le Conseil d'État en décembre 2023 pour avoir des fermetures de pêche sans dérogation à l'hiver 2024.
Alors on peut rentrer dans ces précisions en disant qu'en mars 2023, le Conseil d'État ordonne au gouvernement de prendre des mesures pour limiter les captures accidentelles des petits cétacés. Le ministre en charge de la mer de l'époque, Hervé Berville, prend un arrêté daté du 24 octobre 2023, interdisant notamment aux navires de 8 mètres ou plus équipés de certains filets de pêche, de pêcher sur la façade atlantique. Mais de très larges dérogations avaient été prévues pour 2024, probablement trop larges et qui mettaient à mal, en tout cas, la portée de cette interdiction. D'où les associations qui sont reparties dans une démarche et la décision de suivre les préconisations et de mettre en place ces interdits. On a vu quand même le 30 décembre 2024, à nouveau, le Conseil d'État confirmer la fermeture spatio-temporelle. Que s'est-il passé? Qui veut réagir? Peut-être Hélène Pelletier ou Kitry Sourgé?
Moi, je veux bien réagir par rapport à ce qui a été dit auparavant. Juste préciser que l'UE a donc étudié des scénarios et en aucun cas le a dit qu'il allait en place des mesures d'urgence pour préserver la population de dauphins. Il faut noter qu'aujourd'hui, le dauphin commun n'est pas classé comme une espèce menacée sur les listes rouges de l'UICN. Il est dans la catégorie des préoccupations mineures, en catégorie préoccupation mineure. Donc aujourd'hui, les scénarios qui avaient été étudiés par le CEUM, ils devaient se positionner sur différents scénarios, mais ils n'ont pas préconiser cet arrêt. Suite à la première mesure qui avait été prise avec cet arrêté pour fermer la fermeture de la pêche à certains navires de pêche, mm-hmm. avec des dérogations, permettait en fait aussi de tester les dispositifs qui sont mis en place par les professionnels depuis 2017. Parce que l'objectif des professionnels de la pêche, c'est de trouver une solution qui permette d'allier et la pêche professionnelle et la présence des cétacés sur la zone. Et donc, ils testent des dispositifs sélectifs, des dispositifs de mitigation depuis 2017 avec des résultats probants et encourageants pour certains. Et la fermeture de la pêche empêche l'utilisation de ces dispositifs. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez mal perçu par la profession puisque ça ne permettait pas de continuer le travail en ce sens-là. Mmh.
Et en tout cas, le Conseil d'État a confirmé la fermeture spatio-temporelle en décembre 2024 pour le golfe de Gascogne, la fermeture, donc l'interdiction de pêche aux bateaux de pêche à risque. Et donc, désormais, nous sommes dans cette interdiction, en tout cas à minuit ce soir, ce sera le cas. Et alors, le Conseil d'État ayant, il faut être vraiment précis sur ces terrains-là, souligné que la Commission européenne avait déjà adopté le 30 septembre 2024 un acte délégué mettant en place des mesures dans le golfe de Gascogne durant l'année 2024. Puisque la question, la revendication des pêcheurs français, c'est de dire on nous interdit à nous l'accès, mais d'autres bateaux étrangers peuvent y pêcher, ce qui posait effectivement des problèmes. Hélène Pelletier, sur cet état des lieux, avant justement de tirer peut-être un premier bilan de l'année écoulée.
Donc sur le bilan de la fermeture de l'hiver 2024, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a eu une grosse diminution du nombre de dauphins présentant des traces de capture. Donc ça, j'ai envie de dire, tant mieux, quitte à ce qu'il y ait ces mesures qui soient prises, autant qu'on puisse constater leur efficacité. Mmh. Ce qui est surprenant également, c'est que alors on a eu une baisse très importante des captures pendant la période de fermeture, mais également dans une moindre mesure autour de la période de fermeture, un petit peu avant, un petit peu après. Donc on imagine, nous, ce qu'on pense, qu'on va essayer de démontrer a posteriori, c'est qu'il y a peut-être eu plusieurs phénomènes, donc déjà l'efficacité de la fermeture, encore une fois, mais également peut-être une diminution du risque de capture pendant l'intégralité de l'hiver, peut-être avec un changement de la distribution des proies des dauphins, peut-être un changement de la distribution des dauphins eux-mêmes, peut-être des changements de pratiques ou de pêche ou des choses comme ça qui ont fait baisser le risque de capture et qui fait que, globalement, à l'échelle de l'hiver, on arrive à peu près 1400 captures de dauphins communs estimées pendant l'hiver 2024, pendant la fermeture, encore une fois, mais également un peu avant et un peu après.
Contre 6100 en moyenne entre 2017 et 2023, c'était ça?
Voilà, exactement.
Mmh. Donc une baisse significative et sans interdiction, il faut rappeler, c'était 9000 dauphins à peu près communs qui perdaient la vie chaque année. Hein.
Oui, ça peut être un peu variable selon les hivers, mais effectivement, on a pu avoir jusqu'à presque 10 000 dauphins morts en un hiver.
Et alors, ceux qui, durant l'interdiction donc d'il y a un an, ont été récupérés, donc échoués, seuls 29% présentaient des traces d'engins de pêche. Donc ça veut dire que là, il y a eu cet effet de l'interdiction visible aussi sur l'état des dauphins échoués.
Oui, en fait, c'est vraiment ces chiffres-là qui nous permettent ensuite d'extrapoler et de faire des estimations du nombre de dauphins qui sont morts en mer. C'est vraiment les animaux qui sont retrouvés échoués et le nombre d'individus qui présentent des traces de mort dans les engins de pêche. Et là, effectivement, on a vu une baisse très importante. Donc, 29% des animaux, des dauphins communs examinés pendant la période de fermeture qui présentaient des traces de mort dans les engins de pêche et autour de 50% le reste de l'hiver. Alors que c'est vrai que, par exemple, en 2023, on a eu certaines périodes où on avait presque 80-90% des dauphins communs échoués dans un état d'être examiné, évidemment. Hein, je ne parle pas des animaux très décomposés sur lesquels on ne peut pas faire d'investigation, qui présentaient des traces de mort dans les engins de pêche. C'est pour ça que je dis que, bien évidemment, on a une visibilité sur l'efficacité de la réduction, de la fermeture de la pêche, mais qu'il y a peut-être aussi d'autres événements à l'échelle de l'hiver qui ont fait qu'on a une baisse globale du nombre d'animaux capturés.
Alors on parle de cette période 22 janvier, 20 février. En même temps, la période à risque, elle va de décembre à mars. Est-ce que établir comme ça si précisément, alors que chaque année peut être différente, une période d'un mois, c'est cohérent selon vous, chercheuse, spécialiste, scientifique, pour établir des données?
C'est cohérent au sens où ça reste la période la plus à risque au milieu de la période à risque. Quelque part. Donc, d'accord. C'est la période où, par les années passées, on avait les taux de capture, enfin, le risque de capture le plus important. Ensuite, c'est sûr que si on veut couvrir toute la période à risque, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Maintenant, c'est aussi pour ça que nous, on alerte sur le fait que, donc, 2024, effectivement, la fermeture a bien marché, mais qu'on n'est pas du tout capable de prédire et de savoir si cette efficacité pourrait être transposée en 2024, en 2025, pardon, et en 2026. Parce que peut-être que pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, de présence des dauphins sur les zones, de présence de leur proie, parce que les dauphins se déplacent en fonction de leur proie, hein, globalement. Ils n'ont pas vraiment d'autres raisons de se déplacer très largement, si ce n'est pour suivre les bancs de sardines et d'anchois dont ils vont se nourrir. Et donc peut-être que sur une période effectivement d'un mois de fermeture, peut-être que cette année on passera à côté ou qu'à nouveau ça sera très efficace.
Oui, donc,
ça,
nous, de date à date, c'est difficile en tout cas.
Voilà, exactement. Et du coup la comparaison de date à date est aussi parfois compliquée parce que les conditions météo, parce que des choses peuvent évoluer à fine échelle.
Alors avant de nous préoccuper de la filière pêche, hein, bien sûr, dans ce dispositif, je me tourne vers vous Fabienne Delfour par rapport à ces questions-là et à ces dauphins. D'ailleurs on n'a pas forcément parlé des échouages peut-être ailleurs, hein, dans d'autres zones du monde. Pour l'instant, on se préoccupe du golfe de Gascogne, mais il doit y avoir d'autres secteurs aussi dans le monde.
Mais comme le précise Hélène, et c'est très important, en fait, je pense qu'il faut avoir une vision écosystémique aussi. Donc, le plus de variables on aura, et plus on sera capable de modéliser le processus. Donc, c'est vraiment important. Et comme la science adore aussi la reproductibilité, donc essayer de récolter plusieurs fois sur une même période ce type de données, ça va nous permettre aussi de modéliser le processus. Donc ça aussi, c'est très très important sur la pérennité, en fait.
Et oui, parce que c'est toujours délicat de se dire que du 22 janvier au 20 février, chaque année, le comportement des dauphins sera le même. Eh bien non, ça, vous en savez quelque chose en spécialiste de ces comportements-là.
Des dauphins et des proies, parce qu'il faut voir, le milieu est vivant, donc voilà, il faut vraiment essayer d'avoir le plus d'éléments, d'indicateurs pour pouvoir avoir la meilleure image possible de la situation.
Et selon les conditions météo et d'autres conditions, etc., qui jouent effectivement leur rôle. En tout cas, on comprend, hein, ambition partagée, concilier environnement, activité économique, ce qui n'empêche pas de générer quand même aussi des tensions et de l'incompréhension du côté des pêcheurs. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 30 mars 2023, donc il y a presque un an, mais c'était à l'issue de cette... c'était avant, pardon, 2023, c'était juste avant l'interdiction de 2024, et donc on comprend aussi que cette filière pêche se pose beaucoup de questions.
Les quatre premiers mois de l'année représentent 50% de nos chiffres d'affaires, bien souvent. Le mois de plus au juillet et l'épée de Damoclès, c'est ce qui nous achève, puisque moi, c'est 10% de plus. On arrive à 60%. À 60%, je ne suis pas viable.
Propriétaire d'une petite unité, Paul Lucine, comme tous les navires de moins de 12 mètres, devra donc équiper son bateau.
À moi, mon type de pêche, ce n'est pas du tout des filets fixes où les dauphins peuvent se prendre. C'est un filet... nous, on n'a pas de filet en mer. On travaille juste sur place tout le temps, on pose le filet, on le remonte de suite. Donc on a une pêche très ciblée qui permet de ne pas avoir des captures accidentelles type dauphin et autres, quoi.
toute la profession estime être accusée à tort. Et pour les frères Argelas, famille de pêcheurs, les causes sont ailleurs.
Mon père, pendant toute sa carrière qui a duré plus de 40 ans, n'a jamais attrapé un seul dauphin. Et aujourd'hui, nous avons des petits bateaux en faisant des mêmes métiers, des métiers qui n'ont pas évolué depuis plus de 40 ans, et bien on en attrape. Même filet, métier. Même matériel, même matériaux. Donc il n'y a rien qui a changé et on en attrape. Donc la question est aussi peut-être de se poser d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'il n'y a pas des dégradations massives de l'environnement au large?
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Qui trisurgeait côté pêcheur, compréhension, incompréhension. Il y a différentes positions, hein, et, mais beaucoup d'inquiétudes aussi pour la filière.
Oui, tout à fait. Déjà, l'incompréhension, elle vient du fait que, comme on le disait, la population est stable à l'échelle de l'Atlantique Nord-Ouest et que c'est une espèce qui n'est pas estimée en danger sur les listes rouges de l'UICN. Ensuite, incompréhension parce que la fermeture n'est pas une solution. Ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on soit on sera dans le bon mois cette année. C'est quelque chose qui est incertain. Et donc, une fois qu'on a fermé, on revient, on retourne en mer et on se retrouve face à la même problématique. Du coup, la profession proposait d'autres méthodes, enfin propose toujours d'autres méthodes qui sont l'utilisation des dispositifs de mitigation et qui permettraient en fait de trouver une solution pérenne alliant activité de pêche et la présence des dauphins communs. À noter que ces essais ont montré des résultats et justement comme le précisait Hélène juste avant, c'est que il y a d'autres facteurs que la fermeture qui ont aussi permis de réduire les captures accidentelles l'année dernière, puisqu'on avait des diminutions de captures accidentelles avant même la fermeture. Et il y a une question qui peut se poser, est-ce que les dispositifs mis en place sur les bateaux ne seraient pas déjà aussi une des causes? Parce qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des chalutiers pélagiques qui sont équipés de pingers, avec des résultats d'une diminution de 65% de captures accidentelles de dauphins communs sur ces bateaux-là avec ces dispositifs. Et on a 80 filayeurs équipés de dispositifs Pifil qui ont montré à présent des résultats plutôt encourageants.
Alors, rappelez-nous peut-être, Kitri Sourgé, rappelez-nous comment ça fonctionne, oui. Là, les pingers, les caméras, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... D'ailleurs, ce sont des obligations, je crois, hein, qui ont été établies il y a quelques années, ou depuis 2023, je crois, les filières et chalutiers de plus de 15 mètres de long sont obligés de contribuer au programme OPSMER, notamment. Il y a des obligations qui se sont imposées, et puis des démarches spontanées de pêcheurs qui s'équipent. Alors, dites-nous, En quoi ça consiste?
Du coup, en 2017, donc c'est le premier métier de pêche qui a été visé par les captures accidentelles de dauphins communs, c'était les chalutiers pélagiques. Donc ils ont commencé à travailler sur ces pingers. C'est des dispositifs qui sont posés sur les chalutiers, à l'entrée des chalutiers, et qui émettent un son acoustique qui va faire l'engin de pêche.
On a quelques problèmes de connexion qui trisurgent avec vous. On va peut-être essayer d'améliorer quand même le moyen, le système. On va revenir vers vous pour un meilleur confort pour nos auditeurs. Du coup, je me tourne vers vous, Fabienne Delfour, puisque on parle des pingers, mais on parle justement de ce que ça génère, c'est-à-dire un langage finalement, ou en tout cas des façons de communiquer ou pour essayer de prévenir les dauphins d'un danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement en retour sur ces outils oui. Selon vous?
En fait, l'idée, c'était de signaler les présences et donc potentiellement signaler un danger à l'animal. Et dans l'idée, c'était de le faire fuir ou en fait qu'il évite cette source sonore. Mais ce qui se passe parfois, c'est que les dauphins, ils ont associé ce son à la présence de poissons, une grande quantité de poissons. Et donc, c'est un apprentissage par association assez classique. Et donc, malgré le bruit qui est généré, ils peuvent aussi avoir appris que c'est plutôt un signal de passer à table que de fuir. Donc, très probablement, il y a aussi ces types de phénomènes à étudier. Donc, je pense que je rejoins Hélène sur le fait qu'avoir le plus d'informations sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe avant, après, quels sont les individus qui prélèvent aussi. Donc plus on aura d'informations et plus on sera capable en amont d'essayer de prévenir tout ça. Mais en fait, ce dispositif est conçu par des humains, avec une logique humaine, mais qui n'est pas tout à fait la logique des animaux. Parce que voilà, eux, ce qu'ils voient, c'est un bruit de la nourriture passée à table.
Eh oui. Hélène Pelletier, c'est un petit peu ce que vous avez en tête aussi. Enfin, vous tous, à Pélagis, hein, notamment, mais chercheurs, scientifiques, qui essayaient de comprendre, parce qu'on en est là, en fait. Hein, il n'y a pas forcément de conclusion définitive tirée, mais essayer de comprendre, limiter ces échouages, parce que même si les dauphins ne sont pas sur la liste rouge de l'UICN, hein, l'Union internationale de conservation de la nature, mine de rien, ils sont quand même en danger, vu le taux d'échouage avant les interdictions. Donc, on comprend qu'il y avait ce souci d'agir et de comprendre. Mais complexe, et donner à comprendre qu'il faut aussi du temps pour avoir suffisamment d'éléments, quoi.
Oui, tout à fait. On est toujours un petit peu pris entre deux feux, celui du temps de la science et celui du temps de la décision de conservation et de la décision politique. Ensuite, sur la question du statut de protection des dauphins, je pense que c'est quand même intéressant de réfléchir un peu à l'impact finalement que peuvent avoir nos activités sur ces populations. Et notamment, une des alertes que l'on a aujourd'hui, effectivement, la taille de la population a l'air pour l'instant de rester stable. Après, ce sont des espèces qui vivent longtemps, qui se reproduisent lentement. Quand un déclin commence à être observé, généralement, c'est qu'il est déjà bien avancé. Et pas forcément irréversible, mais en tout cas très compliqué à rectifier et à restaurer, puisqu'encore une fois, les dauphins ne vivent pas si longtemps que ça par rapport au nombre de petits qu'ils ont au cours de leur vie. C'est très long de restaurer une population de dauphins. Et ce qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui, c'est que si on ne voit pas un changement dans le nombre de dauphins, avec les méthodes que l'on emploie, en revanche, ce qu'on commence à constater, c'est un changement un petit peu dans la démographie, dans la pyramide des âges des dauphins, et notamment, on a de moins en moins de vieux individus. Les dauphins meurent de plus en plus jeunes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de petits, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas plus de petits. Par contre, ça veut dire qu'ils meurent de plus en plus jeunes. Et on fait très attention à ces signes qui sont un petit peu avant-coureurs, parce que dans de nombreuses populations d'espèces qui vivent longtemps, c'est un peu, des fois, le signe avant le déclin. Et encore une fois, quand le déclin est annoncé, eh ben, généralement, ensuite, c'est compliqué de restaurer ces populations. Et si à l'échelle de tout l'Atlantique, effectivement, le dauphin commun n'est pas une espèce en danger, on a quand même pour devoir de maintenir ces populations dans un bon état de conservation dans les eaux européennes.
Kitry Sourgé, je crois qu'on vous a retrouvé dans de meilleures conditions. Je vous laisse bien sûr réagir. On n'a pas précisé depuis le début de l'émission que c'est environ 300 navires français, hein, ceux de plus de 8 mètres ou équipés de certains types de filets qui sont concernés par l'interdiction, et que il y a une enveloppe de compensation qui a été générée en tout cas par l'État, mais pour couvrir à peu près 80-85% des pertes. Cette enveloppe se monte cette année à 20 millions d'euros pour les pêcheurs et ceux qui sont en aval de la filière, hein, parce qu'il y a pêcheurs et tous ceux qui en dépendent. Vous pouvez peut-être nous en dire plus aussi sur ces conditions-là. C'est important d'en parler parce que cette interdiction peut avoir aussi, sur le plan économique, des conséquences ou des effets.
Oui. Je voulais juste revenir sur tout à l'heure, au moment où j'étais coupée sur les clingers. C'était pour faire le constat que disait Hélène. Tout à fait, on est tout à fait d'accord que c'est pas parce que la population n'est pas en danger actuellement qu'il ne faut rien faire. C'est pour ça que les pêcheurs se sont engagés dans de nombreux programmes de dispositifs. Et qu'aujourd'hui, donc la fermeture, elle est assez incompréhensible pour les pêcheurs parce que ça a beaucoup d'impact sur la filière. Et en effet, ça met 300 navires de pêche du Golfe de Gascogne à terre pendant un mois. Ces 300 navires de pêche sont indemnisés, mais l'indemnisation, c'est pas viable sur du long terme. Il y a 20 millions d'euros qui sont débloqués pour indemniser ces pêcheurs. Il y a un peu la perte directe pour la filière est estimée à peu près 30 millions d'euros. Donc il reste un petit gap, mais voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas que les pêcheurs en eux-mêmes qui sont touchés, mais aussi les criers, puisqu'il y a une perte de 40% pour les criers du golfe de Gascogne d'apport de poissons sur les criées, une perte pour les mareyeurs. Et en fait, la perte, elle est aussi pas quantifiable parce qu'il y a des pertes de marché pour certains mareyeurs qui n'arrivent pas après à retrouver le marché qu'ils ont perdu pendant les mois de février. Et donc, la filière, elle est vraiment mise à mal. Il y a du coup des importations qui se font avec derrière des impacts pour le poisson qui est importé, donc un indice carbone qui est sûrement plus élevé puisque le poisson est importé, et puis des poissons produits dans des conditions dans d'autres pays, peut-être hors Union européenne, avec des conditions et des réglementations, des conditions environnementales et des réglementations environnementales qui sont sûrement moins vertueuses que celles des pays européens et de la pêche française. Parce qu'il faut savoir que ces pêches-là sont les plus réglementées au monde, et que la pêche française fait énormément d'efforts, et les stocks n'ont jamais été en aussi bon état depuis les années 80 et même avant, en fait. Donc aujourd'hui, c'est une pêche. Enfin, la pêche française s'est adaptée pour améliorer son impact environnemental sur les milieux marins.
Fabienne Delfour, vous vouliez réagir?
Je voulais juste réagir par rapport au renouvellement de la population. Donc, je disais, les animaux vivent à peu près 25 à 40 ans, mais ils sont en activité sexuelle environ 8 ou 15 ans. Et il faut savoir qu'une femelle, elle va porter un petit pendant, enfin, sa gestation va durer 10 à 12 mois, et elle va avoir un petit tous les 2-3 ans. Donc, effectivement, on voit bien qu'elles vont pas faire des petits tous les ans, et que ce renouvellement de la population, il est très très long à mettre en place. Donc effectivement, quand on a les premiers signes de ce déclin, c'est vraiment un gros gros signal d'alarme.
Alors, position conciliable ou irréconciliable entre les différents secteurs, nous allons en parler dans un instant, après avoir écouté votre choix musical, Hélène Pelletier. Vous avez choisi de nous faire entendre une reprise, en fait, hein, une reprise des Passantes de Brassens.
Oui, tout à fait, c'est la musique qui termine le film Emilia Pérez, dont on entend beaucoup parler, et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que déjà c'est Brassens. Et que ce cœur de femme qui termine le film de façon assez magistrale et je trouve assez inspirant.
Voilà, et dans ces conditions parfois tendues, hein, dans vos métiers, hein, vous unes et aux autres, ça peut faire du bien.
Dedico este poema a la que fuera tan amada. Durante fugaces instantes, a la mujer de mis noches, a la que se iba al alba, sin nunca hablarme de ella. ¿A quién?
Tan libre como el aire, tan
sur cette reprise des passantes de Brassens dans le film Emilia Pérez, Las Damas, que Passan. Eh bien, sur ce choix musical d'Hélène Pelletier, nous poursuivons De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct. Et nous nous intéressons aujourd'hui à la pêche interdite dans le golfe de Gascogne pendant un mois. Est-ce la solution pour sauver les dauphins ? Décryptage, état des lieux, premier bilan avec nos trois invités. Hélène Pelletier, ingénieure de recherche à l'Université de La Rochelle, déléguée au groupe d'experts sur les captures d'espèces protégées à l'Observatoire Pélagis de La Rochelle. Fabienne Delfour, éthologue, cétologue, spécialiste du comportement et de la cognition des animaux, en poste à l'École vétérinaire de Toulouse et auteur du livre « Dans la peau d'un dauphin », un livre paru chez Flammarion, et Kitry Sourgé, ingénieur halieute chargé de mission au sein de l'Organisation des pêcheurs de Bretagne.
Oh, il y en a une. Vous avez une caméra ici pour filmer la remontée du filet. Et après, il y en a une devant pour voir l'extérieur du filet, l'extérieur du bateau.
Cette caméra donc, un émetteur sous la coque des bateaux ou encore cette balise à poser sur les filets.
L'idée, c'est d'avoir un message qui a été retranscrit en parler dauphin pour informer le dauphin commun d'un danger.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 27 octobre 2023. On parlait justement des moyens, des outils technologiques qui peuvent être utiles, peut-être en tout cas utilisés. Il y a aussi des obligations qui s'imposent aujourd'hui aux pêcheurs. Hélène Pelletier, si je ne m'abuse, il y a alors OPSMER, OPSCAM, on peut peut-être en parler. Et puis se projeter sur l'après, c'est-à-dire est-ce que vous sentez qu'il y a possibilité de d'œuvrer de concert pour tenter de trouver des solutions.
Alors effectivement, aujourd'hui, alors OPSMER et OPSCAM sont des dispositifs d'observation des captures, alors entre autres, parce qu'OPSMER, ça intègre aussi d'autres données qui sont collectées, mais ce sont des observateurs qui embarquent à bord des bateaux de pêche pour détecter des captures de dauphins. OPSCAM, ce sont des caméras, donc effectivement, qui sont sur les bateaux, qui sont dédiées à l'observation, à la détection automatique de captures de cétacés et de mammifères marins dans les engins de pêche. Donc ça, ce sont des dispositifs qui permettent de collecter des informations, qui permettent d'avoir plus de connaissances. Donc moi, je partage complètement le constat de Kitry. La fermeture d'un mois n'est pas une mesure pérenne. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Et alors moi, j'irais même plus loin. J'irais même à dire que d'une certaine façon, c'est presque un constat d'échec en fait de la façon dont on n'a pas complètement réussi à trouver des solutions conjointement scientifiques et pêcheurs. Et là, je pense que chacun doit prendre sa part de responsabilité là-dedans, parce que finalement, la question des captures accidentelles, elle est observé depuis plus longtemps que 2017. Ça s'est intensifié, mais c'est des questions qui ont lieu depuis bien plus longtemps. Et ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment, en tout cas, réussi à avancer conjointement. Donc maintenant, effectivement, nous, on ne pense pas qu'il y aura forcément une recette miracle à l'issue de ces 3 ans. Par contre, moi, je crois assez à un ensemble de solutions qui allieront probablement des solutions technologiques comme les répulsifs acoustiques, mais pas que. Je suis pas sûr qu'on réussira à abaisser le niveau de capture suffisamment pour que ça soit pérenne pour la population uniquement avec ces dispositifs-là. Mais peut-être que si un jour on a des connaissances plus fines, et là vraiment, c'est en ça que les pêcheurs ont les cartes en main de nous transmettre plus d'informations. Il y a des pêcheurs qui participent à des programmes qui ont équipé leurs bateaux de caméras, etc. Et c'est très bien, vraiment. Mais il en faudrait plus. Il faudrait vraiment une participation plus massive. On voit qu'il y en a encore certains qui sont vraiment réticents à participer à des programmes de recherche. Alors, on peut entendre, vu un certain nombre d'historiques du monde de la pêche avec les scientifiques, mais n'empêche que aujourd'hui, c'est vraiment eux qui ont les cartes en main pour qu'on puisse trouver des solutions qui seront probablement des choses plus fines, et on espère plus fines, c'est-à-dire pas tous les bateaux de plus de 8 mètres d'un certain nombre d'engins de pêche dans tout le golfe de Gascogne, et pendant un mois, des choses plus fines, plus précises, mais parce qu'on aura une connaissance beaucoup plus fine des circonstances de capture et de comment ces circonstances évoluent dans l'hiver, et en fonction des engins, des pratiques et des circonstances de pêche, et donc permettra d'avoir des choses qui sera plus ciblées aussi plus efficace et plus acceptée par l'ensemble de la profession.
Oui. Kitry Sourgé, on parle de l'engagement de certains pêcheurs et puis de la réticence de d'autres. Comment vous percevez les choses? Parce que vous disiez vous-même qu'il faut aussi utiliser, multiplier ces outils technologiques dont on a parlé pour essayer de concilier pêche et protection des dauphins notamment ou d'autres cétacés. Comment vous expliquez qu'il y ait ces tensions, ces réticences chez certains encore et est-ce qu'il ne faut pas peut-être imposer dans ce cas-là ces outils technologiques à bord?
Alors des réticences, il y en a eu, il y en a encore un peu. Tout d'abord par rapport au contexte de médiatique qu'il y a eu autour de ces événements il y a quelques années où on pouvait voir des bateaux qui étaient filmés par des ONG environnementales et quand il y avait des captures qui étaient mises sur les réseaux sociaux, traités comme des meurtriers. Enfin, il y avait tout un contexte qui ne mettait pas du tout les pêcheurs dans une position d'envie de coopérer, de peur en fait de ce qui peut se passer au niveau médiatique et qui n'ont pas du tout aidé en fait à l'engagement des pêcheurs.
Et inversement, Kitry Sourgé, on a vu des violences de certains, et ça ne veut pas dire que c'est représentatif de toute la filière, hein, loin de moi cette pensée, mais de dire que on a aussi vu ces images d'agressions de défenseurs de l'environnement et avec une violence exercée aussi. Hein. Il faut dire qu'on a eu ces images des deux côtés.
Néanmoins, ça représentait quelques pêcheurs qui ne jouaient pas le jeu. Néanmoins, il y a eu quand même un gros investissement de la part de la profession.
Oui.
Puisque je disais, quand même auparavant, c'est que aujourd'hui, on a plus de 100 navires qui sont déjà équipés en dispositifs de mitigation Pinger. On a l'ensemble des fiscalités pélagiques qui sont équipées, et ce depuis 2020, après les premiers tests qui ont été faits en 2017. Comme les résultats étaient très probants, ils ont tous été équipés en 2020 de dispositifs. Donc on a tout cet ensemble de métiers qui est déjà équipé. Ensuite, pour les fileyeurs, c'est beaucoup plus compliqué de trouver le bon dispositif. En tout cas, je ne sais pas s'il y en aura un bon ou les bons dispositifs, puisque c'est dans les filets de pêche, la capture accidentelle est beaucoup plus rare et diffuse. Par rapport aux données qu'on peut avoir sur les observations à la mer, donc le programme OPSMER dont on parle, qui existe depuis des années, on peut voir que la capture accidentelle, elle se fait au niveau des fileyeurs dans 1 à 2% des opérations de pêche. C'est-à-dire que pour un bateau qui va aller en mer 100 jours à 200 jours par an, il peut avoir une année 0 capture accidentelle, une autre année 4 capture accidentelle, et c'est quelque chose de rare et très diffus. Donc du coup, en fait, il faut renouveler des essais et équiper un grand nombre de navires pour avoir des résultats statistiquement viables. Et donc il y a deux programmes qui ont proposé deux dispositifs différents. Il y a le programme PIFIL, c'est des pilières qui sont posées sous la coque des bateaux et qui sont déclenchées par les professionnels au moment du filage, donc quand l'engin de pêche est mis à l'eau, parce que c'est un moment où les captures sont les plus propices. Et pendant ces essais, il y a eu 30 navires qui ont participé à ces essais, donc à partir de 2020. Et aujourd'hui, on a 80 navires qui sont équipés. Il y a un autre projet qui s'appelait Dolphin Free qui a permis une balise, donc là qui est posée sur les filets, donc on entendait dans l'extrait juste avant, c'est une balise avec un signal qui est bio-inspiré, c'est-à-dire que c'est un langage dauphin, c'est une émission acoustique qui reproduit le langage des dauphins pour dire qu'il y a un danger. Et du coup, ces balises sont intelligentes puisqu'elles ne vont se déclencher et émettre ce signal que sur clic de dauphin, c'est-à-dire que quand elles vont entendre dans leur environnement des dauphins à proximité. Et donc, dans le cadre du plan d'action militaire marin, il est prévu qu'aujourd'hui, on a à peu près donc 100 navires équipés et qu'il y aurait presque 150 navires équipés plus de 150 navires équipés à la fin de l'hiver. Et parallèle à ça, donc ça, c'est des dispositifs pour éviter la capture accidentelle. Et à parallèle à ça, il y a aussi des programmes d'observation. Donc ça, c'est pour mieux comprendre le phénomène de capture accidentelle. Donc il y a le programme OPSMER qui a été amplifié sur ce phénomène-là, enfin pour mieux comprendre ce phénomène-là dans les dernières années, avec plus de budget et plus d'observateurs sur ces bateaux-là ces dernières années. Et il y a le programme OPSCAM aussi qui est rendu obligatoire sur 100 navires de pêche d'ici la fin de l'année. Donc il y aura 100 bateaux équipés de caméras. Aujourd'hui, on en a 44.
Voilà. Alors, et vous entendiez tout à l'heure, Kitry Sourgé, la remarque de Fabienne Delfour qui disait, en fait, aujourd'hui, même si on reproduit des sons d'alerte, les dauphins sont aussi intelligents. Ils ont compris que ces bruits-là correspondent aussi à de la pitance, en tout cas à alimentairement, à satisfaire leurs besoins, et que ça ne va pas forcément jouer le rôle ou d'effaroucheur ou d'éloignement. Est-ce que la filière est prête à évoluer aussi, faire évoluer les dispositifs et comprendre que bien ces animaux sociaux s'adaptent?
Alors oui, ça a été pris en compte parce que c'est des phénomènes qu'on a vus sur, en tout cas, alors moi je suis pas acousticienne donc j'en parle avec mes limites, hein, mais c'est des phénomènes qui ont été vus notamment sur les phoques en Manche où en fait ils se sont adaptés aux pingers qui étaient censés les effaroucher et ils sont venus chercher dans les filets ce qu'ils devaient voilà. Là les deux signaux acoustiques qui sont développés donc dans le finger pifil, c'est un signal qui est aléatoire, c'est-à-dire que il a été développé ce signal avec Yves Remer et Pélagis et il a été testé aussi par les scientifiques en mer avant de les mettre sur les fingers. Et l'idée en fait c'est que on est dans une fréquence qui est censée effaroucher le dauphin commun et que le signal est aléatoire pour justement éviter l'accoutumance à un signal spécifique et avoir cet effet d'indiquer que c'est un garde-manger en phase 2. Pour l'autre signal qui est Dolphin Free, le fait qu'il soit bio-inspiré et que du coup il réémet le son qu'émettrait un dauphin pour dire qu'il y a un danger, ça éviterait en fait cet effet d'accoutumance. Pour l'instant, on le voit pas. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, ça a été pris en compte et en considération. Et à savoir que ces signaux sont émis le moins de temps possible, c'est-à-dire que pour le signal pifil, il est émis que au moment du filage, donc c'est quelques minutes à quelques heures dans une journée par le bateau. Et pour le signal Dolphin Free, il n'émet que quand il y a des dauphins autour autour du filet.
Hélène Pelletier.
Oui, moi je veux bien faire une petite minute alimentation et écologie du dauphin pour vous aider un petit peu à comprendre en fait le phénomène de capture.
C'est important, hein. Oui.
Ouais, en fait, donc le fait de c'est une hypothèse qui est issue des pêcheurs, des professionnels eux-mêmes, que la capture aurait lieu au moment du déploiement du filet. Alors peut-être, mais en fait on n'a pas de données scientifiques pour l'instant qui nous aiguillent vers ça. Ce qu'on a détecté en revanche, c'est que en fait les dauphins, ils ne sont pas capturés parce qu'ils s'alimentent de poissons qui sont directement pêchés par les professionnels. En fait, ils s'alimentent sur des zones où il y a des filets qui sont déployés, mais parce qu'ils se nourrissent des mêmes proies que les poissons qui sont ciblés par les professionnels, comme les merlus, la sole, etc. Et donc, c'est des endroits où il y a des agrégations de petits poissons pélagiques, qu'on appelle donc des sardines, des anchois. Et il y a plein d'autres espèces de poissons prédateurs qui se nourrissent au même moment, avec les dauphins. Et c'est au moment où le filet est déployé, où le chalut passe, que tout ce monde-là, finalement, se nourrit au même endroit, sur les mêmes espèces, et que donc des dauphins sont capturés. Ce qu'on a identifié aussi, c'est que quand le dauphin, il est en train de chasser, toute son écholocalisation, donc le sonar qu'il utilise pour détecter ses proies est uniquement probablement dirigé vers sa proie. On a des images de drones où on voit des dauphins communs qui chassent dans des boules de poissons et on le voit aussi sur des images des fois en Afrique du Sud, etc. Les images sont extrêmement impressionnantes. Les dauphins sont des vraies torpilles qui nagent extrêmement rapidement. Ils font des allers-retours, enfin ils font des demi-tours très rapides, c'est vraiment impressionnant. Et on imagine assez facilement dans ces cas-là qu'en fait, comme toute leur attention est focalisée sur la proie, mais finalement, l'engin de pêche qui est à côté, le filet qui est en train de pêcher, il ne le détecte pas. Et notamment, on a des captures de dauphins dans un certain type de filets, qui sont par exemple les filets à sol, qui sont des tout petits filets. Ils sont vraiment pas hauts. Ils sont posés au fond. On se dit, mais c'est quand même curieux parce qu'on a un filet qui fait même pas un mètre de haut. Et dans 50 mètres d'eau, et le dauphin réussit quand même à se prendre pile poil dans ses 80 cm de filet. Et vraiment, toute son attention est dirigée vers ça. C'est comme vous êtes dans la rue, sur votre téléphone, captivé par quelque chose, et vous faites pas attention et vous prenez un poteau. C'est à peu près la même chose. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de trouver des signaux et des dispositifs qui permettent d'alerter le dauphin, de le sortir de sa chasse quand toute son attention est focalisée dessus.
Alors, les solutions, c'est quoi concrètement, Hélène Pelletier? C'est de continuer ses recherches pour mieux comprendre, affiner la compréhension, pour vraiment avoir les justes solutions?
Si j'avais la solution, vous la donnerais, je vous promets.
C'est sûr, tout le monde serait heureux.
Exactement. Ouais. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça sera probablement un mélange entre des dispositifs techniques qui marchent sur certaines pratiques à certains moments, sur certaines espèces, peut-être des changements de pratiques à d'autres moments, peut-être des fermetures de certaines zones très ponctuelles, très localisées, parce que le risque est plus important à ce moment-là. Et là, on prend la notion de la quantité de données et d'informations qui va être nécessaire pour ça. C'est en ça que je dis que les professionnels ont aussi ça entre les mains, parce qu'effectivement, ils s'équipent de répulsifs acoustiques, il va y avoir des tests, etc. Donc ça donnera ces informations-là qui sont très importantes, mais aussi des données sur leurs pratiques, sur les circonstances des captures, parce que très probablement, enfin en tout cas c'est ma conviction aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai plus la même, mais en tout cas aujourd'hui, je pense vraiment que ça sera très probablement un mélange de dispositifs technologiques et également de modifications de pratiques qui permettront de réduire durablement et que ça sera soutenable finalement et pour les dauphins et pour la profession.
Donc continuer à travailler, mais surtout en toute confiance et transparence les uns avec les autres. Fabienne Delfour, ces espèces que vous connaissez parfaitement bien, on parle finalement bioacoustique comme solution et s'adapter aussi parce que elle s'adapte, mais la bioacoustique n'a pas non plus forcément la finesse de ces signaux, de ces langages. Vous y voyez quoi, vous ?
Alors oui, là j'entendais parler du langage des dauphins. Alors oui. On n'en sait pas grand-chose.
Et
en
c'est
fait.
Ça.
C'est ça le compliqué. Donc on est un peu les savants fous. Et
oui.
On essaie des choses et parce qu'il faut bien savoir que pour ces animaux comme pour les humains, la communication elle est contextualisée. C'est pas parce qu'on va reproduire le son d'un dauphin que pour le dauphin ça va signifier ce qu'on nous on lui porte comme intention. Donc oui, il va falloir allier un peu tout ça. Je suis d'accord que les avancées technologiques vont nous aider à faire bouger les pratiques. Et ce que j'aime aussi dans cette démarche, c'est que tout ça est aussi nourri par la science. Et donc avoir des mesures objectives et des avancées technologiques et dans les pratiques qui soient nourries par ces recherches scientifiques, ça c'est très très important. Oui.
Sans stigmatiser personne, mais en ayant cette prise en compte aussi de la situation des pêcheurs, bien sûr. Donc besoin d'aide et besoin d'être épaulés, mais eux-mêmes de participer à tout cela. Et puis de comprendre peut-être aussi qu'il y a une responsabilité du consommateur, puisque la situation des pêcheurs, en dehors de ces questions de sauvetage des dauphins, c'est aussi une situation difficile, mise à mal, comme pour les agriculteurs, on en parle assez souvent avec soit les bateaux-usines qui mettent à mal les pêcheurs traditionnels ou autres. Et donc le consommateur a peut-être aussi une responsabilité dans sa façon de consommer. Allez, dans la dernière minute, Fabienne Delfour, parce que dans votre livre, Dans la peau d'un dauphin, vous nous faites participer et vous nous faites vivre des moments exceptionnels et qui vous ont permis de mieux comprendre ces dauphins qui ne sont pas si faciles à déceler. On croit les percevoir et comprendre leur langage, on en est loin. Partagez-nous un moment d'exception.
Oui, c'est compliqué parce que ils sont engoncés dans cette peau avec un sourire sur les lèvres, mais voilà, ce sont des animaux qui vivent des vies complexes. Et avoir une proximité avec ces animaux, une meilleure compréhension de qui ils sont, ça permet aussi de mieux les protéger. Et oui, il y a eu plein de moments, mais le dernier, justement, ça a été récemment, en avril dernier, dans le gouffre de Cabreton, où on a trouvé un groupe de globicéphales, où il y avait à peu près 150 globicéphales autour d'une baleine à bosse. Et donc, on a enregistré les conversations. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait un grand, grand moment d'excitation générale. Et voilà, ce sont des petits moments qui nous font apprécier parfois le dur travail d'analyse de la bioacoustique.
Et la richesse de ce vivant.
Tout à fait.
Merci à toutes les trois. Merci Kitry Sourget, merci Fabienne Delfour. Je conseille votre livre « Dans la peau d'un dauphin » paru chez Flammarion. Merci Hélène Pelletier. On renvoie sur le site de l'Observatoire Pélagiste de La Rochelle. Et bien sûr, comme d'habitude, les informations complémentaires, la bibliographie, les liens sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.